Oui, bon après-midi. Merci de l'invitation. C'est un honneur et en même temps, c'est un peu intimidant parce que ma famille académique, ce n'est pas l'histoire de l'art, c'est la sociologie. Mais je pense qu'il va y avoir quand même une continuité avec, avec la présentation précédente. Donc, Vincent m'a demandé de choisir une ou des images, une campagne d'images autour de la grève étudiante de 2012. Donc, je voulais quelque chose qui allait dans le sens de la participation, de l'appropriation aussi individuelle, du partage. C'est difficile de s'arrêter à une image quand ce qui caractérise justement la circulation des images sur les médias sociaux, c'est justement la multiplicité, la viralité qui est obtenue, non pas seulement par la diffusion d'une même image, d'un même clip, mais aussi par la personnalisation, le pastiche, la parodie, la critique, etc. Ma première idée, c'était de prendre le carré rouge, mais je me suis dit que c'était peut-être pas très original, mais je veux quand même prendre quelques instants pour parler du carré rouge parce qu'il me semble particulièrement emblématique de ça, parce que le carré rouge, c'est évidemment un signe très simple, qui est à la fois très évocateur, qui est très puissant, mais en même temps qui est extrêmement malléable. Malléable dans sa signification, dans la signification qu'on peut lui prêter, si on se rappelle des citations de Christine Saint-Pierre, par exemple, pour qui elle dit « on sait bien que le carré rouge représente la violence et l'intimidation », mais qui est très facile à approprier et à personnaliser, et que ce soit en ligne, que ce soit hors ligne, donc en ligne, en modifiant sa photo de profil, en faisant des différentes œuvres graphiques, mais aussi hors ligne, évidemment, sur les manteaux, sur les sacs et sur les pancartes. Mais quand même, comme je disais, je voulais quelque chose quand même un petit peu plus original, donc je me suis arrêté sur la campagne « Arrêtez-moi quelqu'un ». Alors, vous avez là quelques exemples de photos qui ont été prises à ce moment-là, donc juste replacées dans le contexte. À la mi-mai 2012, la fameuse loi spéciale du gouvernement Charest est adoptée. Quelques jours plus tard, la CLAS, qui est la principale organisation étudiante mobilisée, fait l'annonce de son intention de désobéir, d'encourager à la désobéissance à cette loi-là. Et je pense que c'est en même temps, si ma mémoire est bonne, le site « Arrêtez-moi quelqu'un » est lancé. Site qui a été conçu, je crois, par Molotov, qui est une entreprise ou un groupe de communication. Donc, on invite les gens à participer, on les invite à se prendre en photo, souvent tout simplement avec une webcam, donc on n'est pas dans des photos qui sont nécessairement d'une grande qualité visuelle, en tenant un signe, on est un peu dans la même idée que Julie décrivait plus tôt, et un signe qui annonce leur intention de désobéir à la loi spéciale. Dans les jours, semaines qui suivent, il va y avoir plus de 5000 personnes qui vont participer à cette campagne-là, donc envoyer, évidemment, ensuite les gens peuvent consulter le site et voir une par une, chacune, des photos. Les effets de cette campagne-là, évidemment, c'est difficile de mesurer de façon précise les effets de telle ou telle campagne, mais je pense qu'on peut certainement identifier, parce qu'il faut encore une fois, se remettre dans le contexte de la loi spéciale, c'est une sorte de chape de plomb qui tombe et on n'est pas trop certain de ce qui va arriver à partir de ce moment-là. Il y a une certaine crainte. Donc, cette campagne-là a certainement contribué à briser une forme de peur, une forme d'isolement aussi, en montrant que les gens n'étaient pas seuls à être offusqués. On demandait tantôt est-ce que c'est de la fabrique de l'indignation. Je ne sais pas si ça la fabrique, mais en tout cas, ça la met en commun. Et ça montre finalement qu'on n'est pas seul à avoir cette indignation-là. Et l'autre effet, je pense, qui est quand même important, c'est l'effet d'humanisation de la désobéissance. Donc, de montrer un visage personnel, un visage humain, normal, entre guillemets, là, si on passe l'expression, dans le sens où les personnes qui veulent désobéir n'ont pas un air différent que les personnes qu'on croise dans la rue, qu'on a dans notre famille ou dans notre milieu de travail. La quantité comme telle, plus de 5000, n'est pas énorme en comparaison avec d'autres campagnes où on fait appel à la participation, mais dans un contexte, encore une fois, assez répressif, même 5000 a pu avoir un effet quand même significatif. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le nombre et le partage, c'est ça qui crée l'intérêt. S'il y avait seulement une photo, on n'aurait pas le même, ça n'aurait pas la même signification, la même valeur. Je cite André Günther, j'ai quand même fait mes devoirs, j'ai cherché dans l'histoire de l'art, qui travaille beaucoup sur la photo numérique, et qui dit dans le livre L'image partagée, il dit « Un objet copié, détourné ou imité est une invitation à poursuivre le jeu. » Il insiste beaucoup sur l'aspect conversationnel, en fait, de ces médias-là. « Le nombre et la variété des reprises comptent plus que leur source, à laquelle elles se superposent dans un buzz qui mêle l'original et la copie. L'expérience partagée est créatrice de valeur. » Donc, c'est ça, c'est une œuvre collective, finalement, c'est une œuvre qu'on justement pourrait qualifier de conversationnelle. Je voulais aussi travailler particulièrement l'idée de l'individu qui porte publiquement une condition politique ou une revendication politique à l'aide des médias sociaux. À mon avis, c'est vraiment un des principaux apports, sinon le principal apport des médias sociaux ou mouvements sociaux. Au-delà de débattre, et puis on sent parfois que c'est polarisé, au-delà de l'organisation d'actions comme telle, mais l'idée de faire cette jonction-là entre un individu et une certaine cause et de l'afficher publiquement, pour moi, ça c'est assez central. Je vais citer un sociologue, Dominique Cardon, qui travaille beaucoup sur les usages d'Internet et des médias sociaux aussi, qui dit « Bon, cette ouverture du dispositif d'énonciation encourage l'élargissement des formes d'exposition de soi, permet de se définir devant les autres par des énoncés extérieurs à son univers d'action. » Je voulais vous donner deux autres exemples aussi qui étaient un peu qui ont précédé d'à peu près 18 mois la grève étudiante de 2012. Et ailleurs dans le monde. Premièrement, une page Facebook qui s'appelle « We are all Khaled Saïd », qui est quand même assez connue, qui a été utilisée en Égypte. Khaled Saïd, qui est un Égyptien qui a été battu à mort par la police en 2010. Et la page Facebook était donc, le fait de cliquer « J'aime » sur cette page-là était une façon de signifier sa solidarité, mais aussi, en soi, c'était un geste de désobéissance parce qu'on est dans un contexte extrêmement autoritaire, la dictature de Moubarak. Donc, en soi, d'appuyer cette page-là était une sorte de coming out politique, en fait, qui a pu participer à encore une fois, à donner du courage ou un peu plus d'audace aux gens pour aller dans la rue. Et l'autre exemple que je voulais donner, c'est un Tumblr qui existe encore. Une page Tumblr qui s'intitule We Are the 99%.tumblr.com et ça date de Occupy Wall Street. Et là, c'est au niveau visuel qu'on peut voir des similitudes. Donc, on invitait les gens à se prendre en photo avec une feuille, mais la feuille pouvait être beaucoup plus riche en mots parce que les gens décrivaient souvent leurs conditions économiques, leur endettement, tout ça, donc leurs difficultés, c'est ça, surtout économiques. Et toutes les feuilles se terminaient par « I am the 99% » ou « We are the 99%. » Donc, la campagne « Arrêtez-moi quelqu'un » combine, sans que ce soit nécessairement volontaire ou conscient, mais combine la dimension désobéissante de la page Facebook « We are all Khaled Saïd » avec l'incarnation visuelle qu'on pouvait retrouver dans le Tumblr « We are the 99%. » Donc, c'est ça. L'intérêt principal pour moi, c'est cette jonction-là entre le personnel, l'individuel et le médiatique, le politique. Ces possibilités-là d'expression qui sont facilitées par les médias sociaux vont souvent être qualifiées de narcissiques par différents intervenants qui souvent d'ailleurs bénéficient eux-mêmes ou elles-mêmes de tribunes importantes, ce qui me semble souvent ironique. Qu'on ait une chronique dans un journal où on est lu à chaque semaine par des milliers de personnes et que quand d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement eu accès à ces tribunes-là auparavant utilisent la tribune qu'ils ont à leur disposition se font qualifier de narcissiques. Mais donc, cette idée-là de l'autoportrait, qui peut être un autoportrait textuel, mais aussi visuel, donc qui est le selfie finalement, contribue, à mon avis, à ce qu'un sociologue américain des années 50-60 s'appelle C. Wright Mills, qui avait un concept que j'aime beaucoup, qui est le concept d'imagination sociologique. Donc, l'imagination sociologique est la capacité d'une personne à faire des liens entre son vécu personnel et une certaine étape du développement socio-historique d'une société. Donc, de faire le lien entre sa condition personnelle et un enjeu social plus large. Et dans ce sens-là, quand on parlait tantôt d'agression non dénoncée, de moi aussi, même si on n'est pas dans une production qui est visuelle, où on est plus dans une production textuelle, mais là aussi, on est dans une forme de récit autobiographique qui fait la jonction, et qui, c'est par l'addition des contributions individuelles qu'on est face à quelque chose de significatif. Donc, l'addition des témoignages d'agression sexuelle vient faire de ces expériences individuelles-là un problème politique. Puis, on est tout à fait dans le même, dans la formule féministe des années 70 à l'effet que le privé est politique. Donc, c'est de prendre le privé, de l'amener publiquement et d'en faire ensuite un enjeu politique. Quelques petites nuances en terminant, en tout cas remarques ou nuances. Ce sont des œuvres qui sont souvent éphémères. Tantôt, Clément de Bourgeac en parlait aussi d'ailleurs. Des œuvres souvent éphémères qui viennent saisir un moment politique, souvent un moment assez critique. Donc, il n'y a pas toujours d'archivage. Les photos que j'ai là, c'est parmi les seules que j'ai été capable de trouver. En fait, il y en a, il y a le livre « L'anthologie printemps québécois, éco-société » où il y a une petite mention, mais je pense qu'il y a une seule photo. J'en avais trouvé une autre, ça c'est pas mal la meilleure que j'ai trouvée. Donc, le site n'est plus en ligne. Donc, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, je fais seulement que le remarquer. Évidemment, quand je dis qu'il n'y a pas d'archivage, je fais abstraction du stockage, de la surveillance commerciale et étatique, qui est aussi le lot d'Internet et des médias sociaux. Donc, c'est probablement archivé quelque part, mais on n'y a pas accès et on ne sait pas. Ensuite, sur la question de l'articulation avec la rue, à mon avis, c'est un peu un faux débat, cette question-là de la rue versus le numérique. Et ça aussi, c'est un bon exemple parce que, en fait, les gens annoncent leur intention de désobéir à la loi spéciale qui, rappelons-le, interdisait les manifestations spontanées de plus de 50 personnes. Donc, les gens annoncent qu'ils vont aller manifester en désobéissant à la loi. Donc, déjà, dans cet exemple-là, l'articulation est quand même assez claire. Ça peut avoir été un élément qui a pu mener éventuellement aux marches des casseroles. Et en terminant aussi, je pense que les médias sociaux, Internet, sont très efficaces pour faire entendre des voix minoritaires ou marginalisées. Par ailleurs, là, bon, j'avais des exemples de 2012, mais les années qui ont suivi ont aussi montré que ces outils-là peuvent aussi être utilisés par des forces d'intolérance, de haine, d'intimidation, de harcèlement. Ce qui pose quand même des questions importantes, et puis vous pouvez nous relancer là-dessus après, mais j'ai pas beaucoup de réponses à offrir là-dessus, c'est-à-dire comment garder le meilleur et éviter le pire, comment favoriser l'expression de voix marginalisées et limiter autant que possible les voix qui visent à taire, à faire taire ces voix minorisées ou marginalisées, c'est pas un problème qui est facile à résoudre. Voilà.